ses opinions n'étaient point transcendantes. Il comparait le style de M. Marat à celui de Voltaire, et Mlle Batenaz à Madame de Staël, à cause d'une ode sur la Pologne où il y avait du cœur. Enfin, Regimbard assommait tout le monde, et particulièrement des lauriers, car le citoyen était un familier d'Arnoux. Or, le clerc ambitionnait de fréquenter cette maison, espérant y faire des connaissances profitables. « Quand donc m'y mèneras-tu » disait-il. Arnoux se trouvait surchargé de besogne, ou bien il partait en voyage. Puis, ce n'était pas la peine, les dîners allaient finir. S'il avait fallu risquer sa vie pour son ami, Frédéric l'eût fait. Mais comme il tenait à se montrer le plus avantageusement possible, comme il surveillait son langage, ses manières et son costume jusqu'à venir au bureau de l'art industriel, toujours irréprochablement ganté, il avait peur que Deslauriers, avec son vieil habit noir, sa tournure de procureur et ses discours outrecuidants, ne déplût à Madame Arnoux, ce qui pouvait le compromettre, le rabaisser lui-même auprès d'elle. Il admettait bien les autres, mais celui-là, précisément, l'aurait gêné mille fois plus. Le clerc s'apercevait qu'il ne voulait pas tenir sa promesse, et le silence de Frédéric lui semblait une aggravation d'injure. Il aurait voulu le conduire absolument, le voir se développer d'après l'idéal de leur jeunesse, et sa fainéantise le révoltait, comme une désobéissance et comme une trahison. D'ailleurs, Frédéric, plein de l'idée de Madame Arnoux, parlait de son mari souvent, et Deslauriers commença une intolérable scie, consistant à répéter son nom 100 fois par jour, à la fin de chaque phrase, comme un tic d'idiot. Quand on frappait à sa porte, il répondait « Entrez, Arnoux !» Au restaurant, il demandait un fromage de brie à l'instar d'Arnoux, et la nuit, feignant d'avoir un cauchemar, il réveillait son compagnon en hurlant « Arnoux, Arnoux !» Enfin, un jour, Frédéric, excédé, lui dit d'une voix lamentable « Mais laisse-moi tranquille avec Arnoux !»« Jamais !» répondit le clerc. « Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, l'image de l'Arnoux !»« Tais-toi donc !» s'écria Frédéric en levant le poing. Il reprit doucement. « C'est un sujet qui m'est pénible, tu sais bien. »« Oh, pardon, mon bonhomme, » répliqua Deslauriers en s'inclinant très bas. « On respectera désormais les nerfs de mademoiselle. Pardon encore une fois, mille excuses. » Ainsi fut terminée la plaisanterie. Mais 3 semaines après, un soir, il lui dit « Eh bien, je l'ai vu tantôt, Madame Arnoux. Où donc ? Au palais avec Balandard, avoué. Une femme brune, n'est-ce pas, de taille moyenne ?» Frédéric fit un signe d'assentiment. Il attendait que Deslauriers parlât. Au moindre mot d'admiration, il se serait épanché largement, étant tout prêt à le chérir. L'autre se taisait toujours. Enfin, n'y tenant plus, il lui demanda d'un air indifférent ce qu'il pensait d'elle. Deslauriers la trouvait pas mal, sans avoir pourtant rien d'extraordinaire. « Ah, tu trouves ?» dit Frédéric. Arriva le mois d'août, époque de son 2e examen. D'après l'opinion courante, 15 jours devaient suffire pour en préparer les matières. Frédéric, ne doutant pas de ses forces, avala d'emblée les 4 premiers livres du code de procédure, les 3 premiers du code pénal, plusieurs morceaux d'instruction criminelle et une partie du code civil, avec les annotations de M. Poncelet. La veille, Deslauriers lui fit faire une récapitulation qui se prolongea jusqu'au matin, et pour mettre à profit le dernier quart d'heure, il continua à l'interroger sur le trottoir tout en marchant. Comme plusieurs examens se passaient simultanément, il y avait beaucoup de monde dans la cour, entre autres Hussonnet et Sisi. On ne manquait pas de venir à ces épreuves quand il s'agissait des camarades. Frédéric endossa la robe noire traditionnelle. Puis il entra, suivi de la foule, avec 3 autres étudiants, dans une grande pièce, éclairée par des fenêtres sans rideaux et garnies de banquettes le long des murs. Au milieu, des chaises de cuir entouraient une table décorée d'un tapis vert. Elles séparaient les candidats de messieurs les examinateurs en robe rouge, tous portant des chaussures d'hermine sur l'épaule avec des toques à galons d'or sur le chef. Frédéric se trouvait l'avant-dernier dans la série, position mauvaise. À la première question sur la différence entre une convention et un contrat, il définit l'une pour l'autre. Et le professeur, un brave homme, lui dit « Ne vous troublez pas, monsieur, remettez-vous. » Puis, ayant fait 2 demandes faciles, suivies de réponses obscures, il passa enfin au quatrième. Frédéric fut démoralisé par ce piètre commencement. Des lauriers, en face, dans le public, lui faisaient signe que tout n'était pas encore perdu. Et à la deuxième interrogation sur le droit criminel, il se montra passable. Mais, après la troisième, relative au testament mystique, l'examinateur étant resté impassible tout le temps, son angoisse redoubla. Carussonnet joignait les mains comme pour applaudir, tandis que Deslauriers prodiguait des haussements d'épaules. Enfin, le moment arriva où il fallut répondre sur la procédure. Il s'agissait de la tierce opposition. Le professeur, choqué d'avoir entendu des théories contraires aux siennes, lui demanda d'un ton brutal. « Et vous, monsieur, est-ce votre avis ? Comment conciliez-vous le principe de l'article 1351 du Code civil avec cette voie d'attaque extraordinaire ?» Frédéric se sentait un grand mal de tête pour avoir passé la nuit sans dormir. Un rayon de soleil, entrant par l'intervalle d'une jalousie, le frappait au visage. Debout, derrière sa chaise, il se dandinait et tirait sa moustache. « J'attends toujours votre réponse ?» reprit l'homme à la toque d'or, et comme le geste de Frédéric l'agaçait sans doute, « Ce n'est pas dans votre barbe que vous la trouverez. » Ce sarcasme causa un rire dans l'auditoire. Le professeur, flatté, s'amadoua. Il lui fit deux questions encore sur l'ajournement et sur l'affaire sommaire, puis baissa la tête en signe d'approbation. L'acte public était fini. Frédéric rentra dans le vestibule. Pendant que l'huissier le dépouillait de sa robe pour la repasser à un autre immédiatement, ses amis l'entourèrent, en achevant de l'ahurir avec leurs opinions contradictoires sur le résultat de l'examen. On le proclama bientôt, d'une voix sonore, à l'entrée de la salle. Le troisième était ajourné. « Emballé, » dit Hussonnet. « Allons-nous-en. » Devant la loge du concierge, ils rencontrèrent Martinon, rouge, ému, avec un sourire dans les yeux et l'auréole du triomphe sur le front. Il venait de subir sans encombre son dernier examen. Restait seulement la thèse. Avant 15 jours, il serait licencié. Sa famille connaissait un ministre. Une belle carrière s'ouvrait devant lui. « Celui-là t'enfonce tout de même, » dit Deslauriers. Rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue. Frédéric, vexé, répondit qu'il s'en moquait. Ses prétentions étaient plus hautes, et comme Hussonnet faisait mine de s'en aller, il le prit à l'écart pour lui dire. Pas un mot de tout cela chez eux, bien entendu. Le secret était facile puisque Arnoux, le lendemain, partait en voyage pour l'Allemagne. Le soir, en rentrant, Leclerc trouva son ami singulièrement changé. Il pirouettait, sifflait, et l'autre